On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
C'est une manifestation qui prend en compte le sort de l'humanité à travers évidemment la préservation d'une espèce animale.
Donc on fait venir la culture, la gastronomie de la région invitée. Comme dans le village Erasokal, on a Slow Food qui intervient avec les produits sentinelles.
Et toutes ces vieilles races locales qui savent se nourrir et prendre du gras, mais le bon gras, là c'est du gras qui est rajouté par une nourriture du terroir.
En tant que restaurateur, on vous raconte dans l'assiette un peu ce qui s'est passé. Ça veut dire que la bête, on connaissait son prénom, on l'a cuisiné de telle manière. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est manger bon et bien.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Un plateau qui s'est installé, figurez-vous, en pleine campagne. Où ça? Au Drény. C'est un village qui dépend de la commune de Plessé. Nous sommes dans le département de la Loire-Atlantique à 20 km de Redon. Et c'est dans ce paysage de bocage que se déroule, sous un soleil radieux quand même, avec même un peu de chaleur estivale, la 8e édition de la fête de la vache nantaise. Imaginez quand même une grande partie de campagne, gratuite, populaire, dont l'enjeu est de participer dans la joie et la bonne humeur à la transition écologique à travers des ateliers de cuisine, des conférences, une université paysanne. On est vraiment ravis d'en être, d'autant qu'il y a un monde fou. 1500 bénévoles, des milliers de participants et un public nombreux et particulièrement chaleureux. Merci beaucoup, cher public, d'être venu en nombre. Le menu dont on va déguster aujourd'hui, agriculture paysanne et gastronomie engagée. On va parler race locale, on va parler slow food, on va parler bons petits plats avec nos trois invités. Je commence avec le premier, l'incontournable, l'indispensable, Laurent Chalet, évidemment, bonjour.
Bonjour.
On peut l'applaudir, car c'est grâce à lui que nous sommes ici, on est un peu chez vous en fait. Vous allez nous raconter l'incroyable aventure de cette fête de la vache nantaise que vous avez quand même fondée à la fin du siècle dernier, que vous organisez tous les 4 ans. C'est devenu aujourd'hui un événement rural incontournable en France et dans le monde. Et puis, on va évoquer avec vous évidemment le destin de cette mascotte. Tout a commencé par elle, cette fameuse vache nantaise, une race ancienne qui a bien failli disparaître et que vous élevez en bio, ici même, hein, dans le village.
Ici, au Drény, oui.
Au Drény, absolument, c'est la bourgade où nous sommes. Ludovic Pouzelgue, bonjour.
Bonjour François Régis, bonjour à tous.
Et oui, il y en a qui vous connaissent, hein, dans l'assistance, ça se sent. Et pour cause, vous êtes le chef de Lulu Rouget, c'est quand même une institution à Nantes. Nantes est à, allez, 50 minutes d'ici, hein, en voiture.
Oui, c'est ça. Ouais.
Même si votre restaurant, qui est une institution, a déménagé il y a un an.
C'est ça.
Dans quel quartier?
On est à côté de l'éléphant articulé, dans le quartier de la
création. Ouais. Ah, il n'est pas passé inaperçu cet éléphant, ouais, absolument. Vous êtes tout à côté avec votre restaurant Lulu Rouget. Et vous êtes très impliqué dans cette fête de la vache nantaise, vous allez nous faire saliver. Car ces questions très sérieuses, cette urgence écologique passe évidemment aussi par le plaisir dans l'assiette, deux recettes simples et paysannes. Et on va voir évidemment qu'il est notamment question de vache nantaise, ou plus exactement de veau nantais, à travers une recette qu'on peut désormais qualifier d'ores et déjà de géniale. La fête de la vache nantaise a un parrain de choix aujourd'hui. Il fait un détour par le plateau dont on va déguster et on en est très heureux. C'est Carlo Petrini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Fondateur de Slow Food, un mouvement international très influent qui milite pour une agriculture durable, une alimentation saine, pour la biodiversité. Et vous menez un grand nombre d'actions partout dans le monde et notamment en France. On va voir ça avec vous. Ils sont du voyage et ils occupent les fauteuils de nos chroniqueurs. C'est Elvira Masson et Arnaud Daguin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Et merci Laurent de nous accueillir.
Elvira.
Je vous ai dégoté, moi, quelques projets et initiatives de cuisine, slow food ou d'obédience slow food, un peu partout en France, qui vraiment donnent de l'espoir et mettent du baume au cœur.
Ah ouais, de belles initiatives, j'en ai eu vent et c'est tout à fait intéressant. Arnaud, coup de lame.
Un coup de lame de boucher, aujourd'hui on va parler de vache.
Eh oui, on va parler de vache, on est bien dans la thématique. Avec nous également aujourd'hui Laurent Thomas, Nadia Chougui, les équipes de France Bleu, Loire-Océan. Toutes nos infos et nos recettes sont à retrouver sur franceinter.fr. à la page, on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Quel plaisir d'être à Plessé. La fête de la vache nantaise a commencé en fanfare ce vendredi, se poursuit jusqu'à ce soir. D'ores et déjà, on a une idée du nombre de personnes qui viennent à la fête de la vache nantaise, Laurent Chalet.
On n'a pas d'idée précise parce que la fête est gratuite, donc il n'y a pas d'entrée. On a l'impression qu'hier samedi, il y avait autant de monde que les dimanches d'autres fois. Donc a priori, ce soir, ça va être carton plein.
On pourrait estimer autour de 50, 60 000 visiteurs dans un village quand même qui ne compte que 5 000 habitants le reste de l'année. Ça veut dire que ça fait du bruit et ça fait du bien, notamment au modèle agricole vertueux, à la gastronomie engagée qu'on essaye de défendre évidemment au sein de notre émission On va déguster. Laurent Chalet, Plessé, pour ceux qui ne savent pas du tout, ça se situe derrière leur poste de radio géographiquement sur une carte. Expliquez-nous.
Entre Nantes et Redon, au nord-ouest de la Loire-Atlantique. À peu près 50 minutes de Nantes. C'est le bocage.
Très bien.
Très très beau bocage.
Petit tour de table. S'il fallait citer une bonne raison, une seule, attention, hein, et Dieu sait si on peut en trouver de multiples, une seule raison d'être là, à la fête de la vache nantaise. On commence avec Ludovic Pouzelgue.
Parce que clairement, en tant que chef de cuisine, moi j'ai des produits exceptionnels qui sont à ma porte et je peux pas me passer de ça, donc il faut que je sois là et je pense que c'est valable aussi pour tous les particuliers qui cuisinent chez eux et qui veulent manger bien.
Le locaborisme est une règle chez Lulu Rouget.
C'est dès qu'on peut, on le fait. Je dis pas que je travaille uniquement en local car c'est pas possible. Mais dès que je peux, ouais, je m'y emploie.
Donc la fête de la vache nantaise, c'est pour vous des contacts, une bouffée d'oxygène, éventuellement, on va le voir tout à l'heure aussi, un peu de travail, puisque vous nous avez apporté une superbe recette que vous avez cuisinée vendredi soir, avec Michel Troisgros quand même, à Roanne, dont vous avez été le sous-chef.
C'est ça.
Pendant assez longtemps.
Ouais, pendant 2 ans et demi, ouais.
Vous avez retrouvé chef Troisgros, ça fait plaisir. Elvira, une raison d'être ici?
Non mais une raison, c'est impossible, en dehors de veaux, vaches, cochons, les tables rondes passionnantes. Mais quand même, j'ai repéré à l'entrée de la fête, dans le petit marché de producteurs fermiers,
oui,
des petits fromages de chèvres frais,
ah oui,
des chèvres du Cougou, qui sont dans le département. Et j'ai commencé à en grignoter un tout à l'heure.
C'est ce que vous appelez grignoter ?
Oui, j'en ai mangé la moitié, quoi.
J'ai vu Elvira dégainer son couteau et vous vous êtes enfilé la moitié du fromage.
On peut dire que je vais remplir mon sac à dos avant de reprendre le train.
Petit fromage frais absolument remarquable qu'on trouve.
Les chèvres du Cougou à Guenrouet.
Oui, on les a vus là-bas et ça fait plaisir à voir. Carlo Petrini. Une seule raison d'avoir accepté de venir à la fête de la vache nantaise et d'en être même le parrain.
Je veux remercier mon ami Laurent pour l'invitation. J'ai vécu maintenant l'expérience d'une fête unique. C'est une fête qui n'est pas seulement bien organisée, c'est une fête qui a une idée politique derrière cette dimension. Et c'est très important parce que cette idée, il doit changer le paradigme que maintenant il a dans la nourriture mondiale. Il a des personnes riches qui mangent bien des produits réalisés pour des paysans pauvres. Et il a des personnes pauvres qui mangent mal pour une agriculture réalisée pour des agriculteurs très riches et multinationales. C'est ça, ça va pas bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la qualité, que c'est un droit de tous. Il ne peut pas être la qualité alimentaire un droit des riches, il doit être de tous. Et le travail qu'il fait ici, les paysans, les éleveurs de France, il peut être une réalité que nous devons exporter dans tout le monde. Si nous n'avons pas les paysans heureux, nous n'avons pas la bonne nourriture.
En tout cas, Carlo, c'est bien dit. Nous avons quand même la chance à la fête de la vache nantaise d'en trouver, d'en rencontrer précisément des paysans heureux. Et c'est vrai que c'est une façon très concrète de toucher du doigt les enjeux fondamentaux qui nous occupent. Arnaud Daguin, je vous pose évidemment la question. Allez, une raison. Moi, je crois savoir, il y a une bestiole qui se cache derrière votre sourire.
Il y a 1000 raisons, dont celle que vient d'évoquer Carlo. Mais c'est vrai que effectivement, là, j'ai un ancien voisin qui est venu nous rendre visite ici, qui a été invité par Laurent. Il s'agit d'un cochon, sympathique. Et ce cochon-là, il rassemble tellement de vertus que ça serait dommage quand même de passer à côté. Mais la vraie raison, la vraie, c'est que c'est ici que se dessine l'avenir de l'espèce humaine.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on est là.
Et saluons le producteur Christian Aguerre. pour ces très belles choses réalisées avec ce fameux cochon de race ancienne. C'est alors, le Quintoa, hein, voilà, on peut quand même le citer.
Puisqu'on parle de l'invité, je vais vous faire goûter quelque chose, si vous voulez bien. Voilà. Alors,
décrivez ce qu'on a sous les yeux, Arnaud.
Alors, on a un talo. Le talo, c'est la galette de maïs grand roux basque. C'est un maïs parfaitement adapté à son biotope, qui n'a pas besoin d'être arrosé, qui pousse sur des sols vivants.
Défendu par Slow Food, d'ailleurs.
Absolument.
Comme le porc Quintoa.
Il fait partie des produits sentinelles. Et sur ce maïs, vous avez un peu de fromage de brebis et surtout, vous avez un peu de ventrèche de ce cochon Quintoa. Pour vous donner une idée, les standards aujourd'hui du cochon industriel, c'est pas plus que 15% de gras. Le standard du cochon Quintoa, c'est pas moins de 30%.
Et voilà.
Le gras, c'est la vie, mais il faut qu'il soit bon. Voilà. Et on a aujourd'hui un ambassadeur du bon gras et du temps. Il y a là-dedans deux ingrédients majeurs. Il y a du temps. Ce cochon a au moins 18 mois. Et il y a du gras. Il a au moins 30% de gras. Et c'est avec le temps et le gras qu'on fait la vie qui va bien.
On est bien d'accord. Merci beaucoup pour ce cri du cœur, Arnaud Daguin. Vive le porc Quintoa de nos amis du Pays Basque. Le porc Quintoa étant évidemment la mascotte de cette 8e édition de la fête de la vache nantaise. Laurent Chalet, vous m'avez dit en préparant cette émission une phrase que j'ai retenue, que j'ai attrapée, que j'ai apprécié, une ambiance festive à la vertu de bousculer les préjugés.
Ben de toute façon, on n'a pas le choix. Comme l'a dit Carlo, comme l'ont dit les autres, il faut qu'on transforme ce qui se passe en ce moment en un cercle vertueux. Et il faut que tout le monde s'y mette. On est obligé de convaincre tout le monde. Donc il y a des gens qui sont déjà convaincus, ils sont là. Et tous ceux qu'on invite à venir sur cette fête, l'idée c'est de les convaincre, qu'ils peuvent tous faire quelque chose. Si on ne le fait pas, de toute façon, c'est fini.
Mais ça peut passer par la convivialité, une forme d'épicurisme.
C'est pour ça que c'est une fête. C'est pas une foire, c'est pas un salon, c'est une fête. Pour que les gens aient envie de se rencontrer les uns les autres, échanger, sans préjugés. Là, l'idée, c'est que justement, nos chefs 3 étoiles qui sont là aujourd'hui, il n'y a pas de barrière avec eux. Ils sont exactement comme nous. Ils se sont mélangés dans la foule toute la journée. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe dans cette fête.
Et ben, vous parliez justement de chefs étoilés, de grands chefs. On va en parler dans un instant avec une recette tout à fait exceptionnelle. Faite bien sûr avec un produit exceptionnel. C'est Ludovic, notre chef de Lulu Rouget, qui va s'en occuper juste après. L.A. Salami, et c'est un peu le Bob Dylan de Londres, vous allez voir, il y a du folk d'humeur champêtre qui va plaire à ma voisine Elvira Masson.
The main door was left wide open, but I took the other. There were shouts and screams, and me, well, I was arbitrator. Sat myself in between he and his replacement mother. He seemed to be so briefly my good French brother. But the friendship is no longer on. Jean is going gone. He said he'd leave. But to put my loyalties up for adoption. And it seems to be to me that weed leaves lives forgotten. And we used to smoke those leaves oh so very often. Often and for very long. So Jean. His nose could smell that I was smitten with that girl from across the road. You see, I was love bitten. He'd tell me that he had my back and then my spine would stiffen. But I cursed when I learned this word weren't really worth a pittance. Both of them had led me on. Motivation to inspire him to be kind. I took a mental notation. These lies, no crimes of mine. My truths are on rotation. To be wise, I knew he'd provide all the right quotation. But his his wisdom, it was just a con. So Jean is going, going, gone. So Jean is going, going, gone.
Comment ça se passe dans votre assiette?
C'est délicieux. Merci.
Qu'est-ce que vous avez?
C'est une batucha.
Batuta.
Batuta de veau de race nantaise, hein, de Laurent Chalet a priori. Et c'est vraiment un voyage. Déjà, c'est beau dans l'assiette parce que c'est coloré, c'est très rosé. Et voilà. Et dans la bouche, il y a plein de saveurs. Alors, on s'imagine après ce que ça peut faire, ce que ça a pu vivre et manger avant d'être mort. Quoi. C'est bon.
Yves-Marie Le Bourdonnec.
Oui.
Expert en viande, comment ça se passe?
C'est très très bon. En fait, là, la viande est utilisée comme un support du goût. La viande est là pour la texture, très très tendre, un peu de jutosité. Et on vient apporter quelques petits ingrédients supplémentaires pour tout relever et faire un petit feu d'artifice dans l'assiette. C'est très intéressant.
Comment ça se passe, ce veau?
Ça se passe bien, c'est vraiment un événement assez... surprenant en fait.
La viande crue, ça vous va?
Alors moi je suis pas du tout viande crue à la base. Ouais, il se passe des choses quoi en fait. Enfin moi je retrouve en tant que producteur de viande une harmonie et se dire une certaine fierté aussi de dire mais en fait il y a quelque part des magiciens du goût qui sont capables de transformer, de poursuivre en fait. C'est la prolongation de tout le boulot et tout l'amour que les éleveurs portent à leurs vaches, de magnifier en fait notre travail dans l'assiette et c'est ouais. Il y a beaucoup d'émotions en fait quelque part.
Par ordre d'apparition, nous entendions Émilie Janin, éleveuse de vaches charolaises en Côte d'Or, qui a d'ailleurs un fabuleux projet d'abattoir mobile dont on reparlera, le boucher parisien Yves-Marie Le Bourdonnec, et Laurent Pinatel, éleveur bovin à Saint-Étienne et porte-parole de la Confédération Paysanne. Tout ce beau monde était réuni vendredi soir autour d'un événement exceptionnel, le dîner des chefs. Michel Troisgros, Michel Bras, deux grands Michel quand même de l'histoire de la gastronomie française, on peut le dire. Et quelques chefs qui ont servi sous un chapiteau un menu champêtre préparé à partir de produits locaux et paysans pour combien d'invités, Laurent Chalet? Mais c'est pas possible.
500 personnes.
500 personnes, vous vous rendez
en
compte?
En même temps, sous le chapiteau.
Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on va déguster, a réussi à obtenir les restes. Je plaisante. Cette fabuleuse batuta a atterri sur le plateau dont on va déguster. Alors évidemment, on a un Italien autour de ce plateau, Carlo Petrini. Non seulement il est italien, mais plus que cela, il est piémontais. Et si je lui dis batuta, du verbe italien battere, ça vous parle?
Batuta, c'est couper. Cette viande, elle est coupée avec un couteau et elle est servie crue. Alors dans ma région, qui est le Piémont, il y a un beau des races piémontaises qui se mangent crues.
La fasona?
La fasona piémontaise. Et j'ai goûté cette viande crue. C'est pas comme une...
comme un tartare.
La tartare. Non, la tartare, c'est...
C'est bien meilleur que le tartare, évidemment, c'est... Carlo.
Qu'est-ce que veut dire ça? Ça veut dire que la matière première, c'est la plus importante de tous. Alors, l'hommage qu'il a fait, ces deux grands cuisiniers, de faire une chose naturelle, c'est un hommage culturel. Vous savez que dans le monde, dans tout le monde, à quelqu'un... des jours et des nuits, vous allumez une télévision, il y a un chef qui parle, et recette, et recette. Ça, c'est pas la gastronomie, peut-être la pornographie alimentaire. Alors, nous avons besoin de retourner à la vraie essence. La vraie essence, c'est la matière première. Et avoir deux étoiles Michelin qu'ils reconnaissent ça. Et présenter un produit comme ça, pour moi, c'est la nouveauté.
Bravo, Carlo, vous avez raison, évidemment. Batuta, on va dire pour faire court que c'est le cousin piémontais de notre tartare, mais là où vous avez raison, c'est que dans la batuta, la viande est dans son plus simple appareil. Il n'y a pas besoin d'un jaune d'œuf, pas besoin de capre, de cornichon, de ketchup, de Worcester. Je ne réussis pas à la prononcer.
Worcester, c'est quand même pas sorcier.
Worcester sauce, ok.
La batuta, c'est tout simple. D'ailleurs, on la goûte dans le public juste avant qu'évidemment Ludovic nous révèle la recette. Il y a même un petit garçon qui l'a goûté. Comment tu t'appelles ?
Arthur.
Comment tu vas, Arthur ?
Bien.
Est-ce que ça te plaît ce que tu as dans ton assiette ?
Oui.
Alors ?
C'est bon.
Est-ce que tu as identifié ce qu'il y avait dedans ?
Du crabe.
Bravo ! Car il n'y a pas que de la viande, il y a un accord terre-mère. Papa, maman veulent réagir ?
Alors, moi, je m'appelle Jérôme, je suis
bonjour,
le
papa
d'Arthur. Moi, j'ai trouvé des chips d'ail.
Oui.
La viande, on nous a dit que c'était du veau. C'est très bon, très tendre. Ça sert de support. Et puis, les accords sont très subtils. Il n'y a rien qui prend le dessus sur l'autre. Enfin, c'est vraiment très bien.
C'est assez épatant et il y a une vivacité quand même, ouais. Une fraîcheur. Je ne sais pas si c'est apporté par ce coup de citron.
Si.
On veut la recette immédiatement. Alors bien sûr, on va préciser puisqu'on va parler dans un instant de la vache nantaise. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un veau de combien de mois à peu près ?
5 mois et demi.
Assez rosé quand même, hein ?
C'est rosé, il faut.
On n'est pas sur une viande anémiée.
Jamais. Hors de question.
Oui. Non.
Mais mes animaux, ils sont heureux, moi. Ils sont pas anémiés du tout. Ils sont pas malades.
Bien sûr.
Ils sont.
Mais
vivants.
On peut quand même parler d'un veau sous la mer ou pas ?
Oui. Oui, c'est veau sous la mer, donc ils sont. À l'étable, leurs mères sortent matin et soir pour les pâturer et manger du foin.
Oui.
On les rentre, on organise la tétée, c'est une tétée surveillée, hein, tous les matins, tous les soirs. C'est beaucoup de travail.
Oui.
On les bichonne, on leur parle. C'est important de parler aux animaux. Ils nous écoutent.
C'est ça.
Hein, ces animaux, c'est des êtres sensibles. Et effectivement, un jour, ils partent à l'abattoir parce que ça fait partie de notre métier. Et donc, ce veau, à 5 mois et demi, ben, il est destiné à aller à l'abattage.
Alors pour faire la recette à la maison, évidemment, bon, se procurer de la vache nantaise, mais elle n'est pas disponible partout en France, et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. C'est très bien de voyager dans le pays nantais et de manger des produits spécifiques, c'est aussi ça le dépaysement du voyage. On part du principe qu'on trouve un veau de qualité, élevé dans des conditions de bien-être, évidemment, et à partir de là... Qu'est-ce qu'on fait, Ludovic Pouzelgue ?
Mais pour rebondir sur ce que disait Carlo, c'est vrai que c'est l'expression même du terroir et du travail de l'éleveur, puisqu'on n'est pas sur une cuisson de viande réalisée par l'acidité. C'est le produit même et on va venir par quelques petites touches le relever et l'assaisonner.
Donc, une forme de condimentation.
Voilà, donc ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même travail. Une noix de veau de qualité ?
Oui.
Taillé au couteau, j'insiste.
On oublie le hachoir électrique.
Ah là, au rebut.
Quel gabarit de morceau avec le couteau ?
Ah, on est sur du entre 0,5 et 1 cm de côté.
Jusque-là, on sait faire. Il faut être un peu patient en cuisine, avoir
un
couteau bien aiguisé.
Ouais, très bien aiguisé pour vraiment respecter le fil de la viande. Ça, c'est important aussi. On va déposer cette viande taillée sur l'assiette. Pour cette recette-là, le clin d'œil, c'était de dire qu'on est quand même dans la campagne, mais qu'on n'est pas loin de la mer. Et de travailler du tourteau, des grosses pinces de tourteau qu'on cuit de façon classique au courbouillon. Qu'on décortique. Alors,
ça devait être sympa les tourteaux à décortiquer pour 500 personnes.
Bah oui, d'ailleurs on vous attendait.
J'avais un peu de retard.
On émiette ça et on essaye de quand même de pas émietter trop fin pour quand même avoir une texture.
Et on dépose en fait cette chair de tourteau émiettée sur.
Elle est déposée, elle est pas mélangée.
C'est ça.
C'est important.
C'est ça qui est important.
Elle est déposée au centre. Et ensuite, on va venir par différents condiments. Alors, monsieur a bien retrouvé les chips d'ail. De l'ail coupé très fin à la mandoline ou au couteau, juste blanchi, frit dans une huile de qualité, s'il vous plaît. Pas trop, pour pas tirer sur l'amertume.
Oui.
On va déposer 6 à 7 pétales par assiette. Ensuite, une petite touche de cumin, juste torréfié.
Il est important le cumin.
Pareil, les épices, un petit peu torréfié, très important. Le poivre, pareil, doucement, mais ça révèle tous les arômes. Une fleur de sel.
Oui.
Alors bon, là on joue le jeu, Guérande à côté, hein, Noirmoutier, enfin voilà. Et puis la touche finale, c'est vraiment l'huile d'olive, le top de l'huile d'olive et un jus de citron qui va venir nous exciter le palais. Les
J'ai vu faire hein, le chef Trois Gros et vous-même.
Très important.
Un demi-citron, on en verse comme ça un petit jet.
Voilà, mais pas, on fait pas le citron le matin pour pouvoir prendre mais l'apéritif.
On sert minute, on sert forcément minute.
Minute et frais, frappé.
Et c'est voilà, une recette qu'on pourrait qualifier presque d'assemblage avec des condimentations, mais tout est à sa place. L'ail, c'est important, ça apporte une note croustillante. Le cumin fait également. Tout était d'un équilibre franchement remarquable. Laurent Chalet, éleveur bio de vaches nantaises, on a compris que c'est vous qui avez fourni le veau pour ce grand dîner des chefs. Qu'est-ce que ça vous fait de voir la matière première que vous passez vos années à élever, sublimée ainsi par des talents au fourneau ?
Ben moi je suis heureux, hein. c'est la continuité d'un travail. Tout le temps qu'on passe avec nos animaux, on essaye vraiment d'aller au top de ce qu'on peut produire, autant dans l'élevage que dans la finition. Et quand après ça peut aller chez des chefs comme Ludo, qui qui le mettent comme ça, comme vendredi soir, vraiment avec de l'excellence derrière, c'est, pour nous, c'est vraiment la continuité du travail, quoi. Il faut qu'on continue à travailler avec ces gens-là, mais aussi continuer à vendre à nos consommateurs en direct, parce que c'est eux la base. C'est eux qui, au départ, nous ont permis de sauver ces races. Sans eux, ça ne serait jamais arrivé, on ne serait pas là.
La première fois qu'on s'est rencontrés, Laurent, je vous ai demandé ce que vous faisiez dans la vie. On a déjeuné ensemble à Nantes. J'avais une petite idée, mais je vous ai quand même posé la question. Et vous m'avez répondu, je gagne ma vie avec des vaches dont personne ne voulait.
C'est vrai que personne n'en voulait plus dans les années, on va dire, dans les années 80. Il ne restait plus 40 vaches nantaises. Moi, j'ai le souvenir de deux dernières de mes parents. Hein, les deux dernières vaches, c'était, j'avais 6-7 ans. Rochette et Dalida, tu vois les noms qu'elles avaient, c'était... Mais je les ai dans la tête.
Est-ce qu'on peut décrire Dalida physiquement, justement? Non, parce que c'est intéressant, je commence à comprendre.
Elle avait les oreilles noires, elle, par contre, elle avait un petit peu de croisement avec le partenaire déjà à l'époque. Hein,
parce qu'on peut parler d'une vache, la vache nantaise, on va dire qu'elle est blonde, ou elle est froment.
Alors, elle est gris perle à froment clair.
Voilà. C'est ça.
Il hein, y a plusieurs teintes de couleurs à l'intérieur de cette race. Toutes les races locales, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a pas sélectionnées vers un type de vache de couleur. On garde une diversité. Et aussi une diversité de robes. C'est-à-dire que le travail de la diversité, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui nous permet de vivre la biodiversité. Il y a la vie et la diversité. Et tout ça, ça s'associe.
Et elle est assez maquillée aussi.
Alors, allez. C'est le maquillage, oui. Ouais, c'est le maquillage qui a maquillée. La différence.
D'où Dalida. Ok. Extraordinaire. Elle a failli disparaître selon un scénario bien connu.
Oui,
hein,
comme
elle a failli être sacrifiée sur l'autel de l'agriculture productiviste. Et vous avez fait partie de ceux qui... vous vous êtes tout simplement relevé les manches pour sauvegarder... Cette race.
J'étais pas le premier. Il y a des gens avant moi, des gens de l'environnement qui se sont mobilisés pour sauvegarder les dernières, notamment autour du parc de Bruyères, puis la Bretagne vivante. C'est là que ça a commencé à sauvegarder. Et après, je suis arrivé, moi, en 95, avec mon esprit de paysan. C'est-à-dire qu'il fallait sauvegarder ces vaches, mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je suis pas un écomusée, je suis un paysan. Il faut que je gagne ma vie. Donc, ces vaches, il fallait trouver une valorisation. Il fallait trouver qu'est-ce qu'on fait du produit issu de ces vaches-là. Et ça a été mon travail pendant presque deux décennies. Trouver et puis les itinéraires techniques qui permettent d'élever ces animaux avec le foin, l'herbe, le pâturage forcément, les céréales produites sur la ferme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut aussi, maintenant, on travaille sur la maturation. Yves-Marie Le Bourdonnais qui était là vendredi soir.
Grand boucher parisien, travaille d'ailleurs votre viande à Paris, il faut le signaler.
Voilà, il a ramené un train de côte à la fête qui avait 2-3 mois et demi de maturation. Alors, on a fait une petite dégustation avec Carlo tout à l'heure. Hein, c'est quelque chose. Hein.
Oui, on a assisté à cette découpe. C'était
bœuf de 5 ans.
Assez extraordinaire. Ce qui est important pour vous, parce qu'on a souvent tendance à prendre les paysans, les producteurs qui se battent un peu seuls contre tous pour de doux rêveurs. Vous êtes un pragmatique, notamment sur le plan économique. Ça veut dire que la micro-filière de la vache nantaise a une réalité économique qui fait que ça marche.
Alors, la micro-filière, je ne sais pas, mais les paysans vaches nantaises, voilà, je suis pour l'instant le seul à n'avoir que des vaches nantaises. Mais petit à petit, l'idée, c'est de montrer que économiquement, c'est viable pour pouvoir installer des jeunes en race locale. Et dans cette fête, on a fait une nouveauté, on a construit une nouveauté, c'est la maison de l'installation, qui permet aux jeunes de rencontrer des éleveurs, des organismes bancaires ou des organismes de gestion qui leur expliquent, c'est possible, on peut le faire, c'est pas facile. Il y a 30 ans, c'était encore plus difficile. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Mais si on veut, on peut.
Absolument.
Et en plus, on doit.
Il est aussi question de vaches anciennes dans le coup de l'âme d'Arnaud Daguin.
Sur France Inter, on va déguster.
Éleveuse, éleveur, auditeuse, auditeur. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui m'émeut. Au tout début, il y a environ 10 000 ans, dans les vertes prairies de Mésopotamie, il y avait un groupe qui jouait. C'était un groupe d'auroch. Oui, d'auroch. 2 mètres au garrot, 800 kilos, des cornes comac. Un petit groupe, hein, cependant, 80 membres à peine. Mais quel membre, François-Régis, quel membre! Figurez-vous que c'est ce petit groupe d'auroch qui a engendré nos milliards de vaches. Dans la revue Molecular Biology and Evolution de septembre 2012, savantes et savants l'affirment, tous nos bovidés domestiques descendent directement de 80 sujets seulement issus du même groupe. L'ADN a meuglé, toutes nos vaches sont des enfants de roc. Ça en fait des groupies, hein. Des groupies à groupies. On peut se demander comment nos ancêtres s'y sont pris pour domestiquer l'auroch. C'est pas si simple, hein, c'est hard l'auroch. Imaginez, François-Régis, capturer déjà l'énorme bestiole, l'exploit. Sacré cow-boy, nos aïeux.
Mais ensuite, garder le monstre en captivité, choisir et apprivoiser ses petits les plus dociles pendant des générations, sélectionner inlassablement pour obtenir de la vache qui bosse, qui fait du lait, de la viande, du cuir, une vache qui, en chiant, enrichit les champs. Faire de cette bestiole un véritable patrimoine sur pattes et créer ainsi les premiers systèmes économiques à partir des troupeaux. Moi, tout ça, ça m'émeut. Mais du coup, une question se pose. Les vaches anciennes, c'était quand exactement? C'est où l'ancien dans cette évolution continue et tellement variée? Quand on se met à parler de vaches à l'ancienne, de pratiques à l'ancienne, de blanquettes à l'ancienne, c'est que l'actuel ne nous va pas. En fait, j'ai l'impression que quand on dit races anciennes, on évoque le moment dans notre histoire où ces vaches étaient parfaitement adaptées à ce qu'on attendait d'elles. Et l'important, c'est ça. Qu'attendons-nous de nos vaches aujourd'hui? Est-ce qu'on doit continuer avec l'animal-machine, dépendant du pétrole et produisant à jet continu viandes et laits de piètre qualité? Une industrie de l'animal avec ses usines à gaz, comme les fermes de mille vaches? Ou bien voulons-nous des animaux bien traités, vivant paisiblement, parfaitement intégrés dans leurs écosystèmes, des vaches donnant du bon lait, de la bonne viande, certes en moindre quantité, mais qui nous coûte tellement moins cher collectivement? De la vache qui est de la valeur, François-Régis, de la vache qui vaut. C'est à nous tous, par nos choix de consommation, de faire émerger l'agriculture du vivant, celle qui produit de la biodiversité, qui élève des vaches parfaitement adaptées à leur paysage et qui donc ne sont jamais identiques, car ces paysages ne le sont pas non plus. La seule agriculture qui puisse à la fois nous nourrir comme il faut et garder notre planète habitable. Une agriculture moderne, débarrassée de la chimie, n'épuisant plus ses sols. Une agriculture qui ne fait plus la guerre aux vivants, mais qui le protège tout en produisant. Une agriculture avec plein de biodiversité dedans, qui nous assure durablement le gîte et le couvert. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Vachement.
Bravo. Bravo Arnaud. On parlait de lait, évidemment. Rajoutons pour préciser le profil de cette vache nantaise, qu'elle est essentiellement destinée à la viande, à la boucherie aujourd'hui, mais qu'elle avait aussi une vocation mixte il y a quelques décennies et qu'elle peut aussi faire du lait.
Elle était d'abord laitière dans les années 50, mais aussi c'était la traction animale qui était sa grande force. Et c'est devenu depuis une race plutôt orientée vers la viande.
C'est ça, c'était une véritable bête de travail également, que c'était l'animal idéal pour un modèle de polyculture relativement extensif.
C'est l'animal dont les paysans et les paysannes avaient besoin. Donc ils fabriquaient leurs animaux au fil des décennies.
Très bien, dans un instant, on évoque Slow Food et son destin en France avec son fondateur Carlo Petrini. Une autre recette de Ludovic Pouzelgue, des bonnes initiatives qui donnent du baume au cœur, présentée par Elvira Masson. Si vous avez envie de mettre le feu, même si l'ambiance est déjà bien chauffée à blanc, à la fête de la vache nantaise, ben vous passez ce disque par exemple. C'est Delgrès, Monsieur Président, du blues caribéen, et personnellement j'aime beaucoup.
Monsieur Président, intelligent, faut expliquer moi ça qui a passé où. Monsieur Président, c'est le cas gouverné, faut expliquer moi qui est en mon cas gouverné. C'est chanter couille, mais moi monter bas, moi faire la confiance. Faut expliquer moi, ça peut faire bon moi. Moi la cagoumé, goumé, 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 goumé. Lité, lité, lité. Goumé.
sommes à la fête de la vache nantaise à Plessé, pas loin de Nantes et de Redon, devant un public chaleureux et joyeux. Et nous célébrons tous ensemble l'agriculture paysanne et la gastronomie engagée avec Laurent Chalet, fondateur de cet événement en 1997. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quand même, Laurent. Hein.
Ah oui, 21 ans, l'âge de la majorité.
Incroyable. Rendez-vous qui est devenu incontournable évidemment au fil des saisons et qui attire de plus en plus de monde de partout, de France et de Navarre. Hein.
Oui, c'est devenu un rendez-vous national des races locales et pas que. Et pas que, il y a des gens qui viennent pour plein de raisons dans cette fête. Les races locales, c'est un petit peu l'emblème de la fête, mais on élargit complètement la gastronomie, la qualité de vie, le végétal dans le village des initiatives solidaires, l'invité d'honneur, le port basque, enfin ça
les semences, la biodiversité végétale. J'ai même vu qu'il y a une conférence qui m'intéresse beaucoup, de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Ils sont importants, les oiseaux, ça fait évidemment partie de notre biodiversité. Il y a avec nous Ludovic Pouzelgue de Lulu Rouget, une institution nantaise où on vous invite à aller vous attabler. C'est vraiment un très très chouette restaurant. Et puis bien sûr, celui qui parraine cette 8e édition de la fête de la vache nantaise, c'est Carlo Petrini. On me demande souvent, slow food, c'est quoi exactement? Pourquoi ça s'appelle slow food? Ça a été inventé par un Italien, mais alors pourquoi une expression anglo-saxonne? Parce que vous l'avez créé en 1986 en réponse à l'ouverture d'un fast-food à Rome. Fast-food, non, slow food.
On ne peut pas appeler une organisation manger lentement. Alors, slow food.
Mangiare lentamente.
Non, ça. Slow food, il a eu la fortune d'avoir une contraposition très forte avec les fast food. Maintenant, la situation est encore plus importante. Les citoyens, ils prennent conscience que la nourriture, c'est une dimension fondamentale pour engager une lutte pour la défense de la biodiversité, pour la défense des environnements. Vous savez que nous avons des changements climatiques qui vont détruire beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Alors, les agriculteurs sont les premiers qui vont souffrir de ça, mais dans le même temps, sont les premiers responsables de créer ça. Alors, nous avons besoin de réaliser une connexion de le citoyen avec les producteurs et compris que manger bien, c'est un acte politique. S'il mange mal, s'il mange le produit des multinationales, le produit d'une agriculture qui détruit les environnements, nous sommes complices. Encore une chose sur cette viande. Quand nous allons manger la viande, de manger une viande sans nitrate. Si nous allons seulement, oh, que belle viande rouge. Mais rouge, elle n'est pas naturelle. Rouge, elle a été réalisée avec la chimique. Nous devons combattre cette chose. Nous avons besoin des citoyens qui connaissent la nourriture.
Et justement, des citoyens, vous en avez beaucoup à travers le monde, puisque le mouvement Slow Food est très influent, implanté dans 160 pays, plus de 100 000 membres et sympathisants.
Nous devons parler clair. Parce que si nous venons ici seulement pour parler de les bons produits, sans parler des environnements et de la justice sociale,
bien sûr,
nous avons une idée de la gastronomie ancienne. Alors, quand j'ai venu ici, j'ai dit, on va à la réunion des vaches nantaises. Et je dois dire une chose, une campagne que Slow Food est faite dans tout le monde, et particulièrement en Europe. La campagne, c'est ça. Nous devons réduire les consommations de viande de 50%. Parce que la consommation de viande que nous avons maintenant, ce n'est pas durable. Alors, quand je suis né à la moitié de l'autre siècle, les Italiens et aussi les Français, ils ont une consommation de viande de 22 kilos par personne. Maintenant, en Italie, nous allons consommer 92 kilos par personne par année. Et le même en France. Une situation comme ça, elle n'est pas durable. Mais la chose incroyable, que quand nous mangeons 22 kilos de viande, la vache nantaise, c'est parfait. Maintenant que nous allons manger 92 kilo de viande, toutes les vaches autochtones, il va mourir. Il va détruire une économie. Alors, manger moins viande, mais bonne, propre et juste.
Ce slogan, Laurent Chalet, éleveur bio de vaches nantaises, cette race ancienne dans le bocage de ce pays nantais, vous n'y voyez pas d'inconvénient? Manger moins de viande, mais manger de la viande de meilleure qualité, ça vous concerne?
Ah oui, complètement. Il faut absolument se contrôler dans cette consommation et produire les vaches aussi différemment. Ça veut dire que on doit les produire avec ce qu'il y a dans notre territoire. L'herbe. Mmh. Une vache est faite pour manger de l'herbe.
C'est ça.
On ne devrait même pas imaginer qu'une vache, elle mange du soja qu'à traverser la mer, l'Atlantique.
Bien sûr.
On affame les gens sur la planète pour produire nos cochons, nos poulets et nos vaches. C'est juste pas possible. Ça va pas pouvoir continuer. L'idée, c'est pas de nous. On peut pas se battre contre ça. On peut, nous, ici, à la Fête des vaches nantaises, dire on peut faire autrement. C'est possible.
Maintenant, proposer des alternatives.
Voilà, proposer des alternatives qui fonctionnent. Et ça, c'est le fondement de la Fête de la vache nantaise.
J'observe d'ailleurs qu'on est beaucoup plus, et c'est certainement une bonne nouvelle, dans la proposition que dans la contestation. On a presque passé la phase « on conteste ». Évidemment, il faut contester ce qu'il y a de contestable.
On est d'abord dans la proposition
et l'initiative, Arnaud Daguin.
Oui, on est sur les initiatives. D'ailleurs, Elvira va nous en parler, j'imagine.
Et bien voilà, transition toute faite en parlant d'initiative, le grand guide slow food des produits du terroir français. Alors, il y a bien entendu la vache nantaise. Il y a également le porc quintois, on en parlait à l'instant. Il y a le blé meunier d'Apte, le maïs grand roux, la lentille blonde de Saint-Flour, la noisette de Chervionne en Corse, la chèvre catalane et j'en passe. C'est un guide que je vous recommande. Vous pouvez vous le procurer aux éditions Plume de Carotte, le grand guide slow food des produits du terroir français. Et de très belles initiatives.
On va déguster.
Avec Elvira Masson.
Parce que slow food, c'est aussi une alliance de cuisiniers qui porte ses valeurs, les valeurs dont Carlo parlait à l'instant, et qui se pose la question de pourquoi en cuisine, comment en cuisine, pour qui, à quel prix. Alors en pratique, ça se traduit comment? Ça se traduit par des dizaines et des dizaines d'initiatives et de projets. Moi aujourd'hui, j'ai quatre choses à vous dire. Quatre projets, quatre initiatives.
Écoutez bien, c'est des initiatives passionnantes.
Que j'ai écumées et qui me passionnent. Un projet en Bretagne, du côté de la Pointe du Raz, à Plouhinec, c'est pour bientôt on espère, l'école de cuisine de l'Alliance Slow Food des cuisiniers, une école alternative qui proposera un apprentissage du métier radicalement différent de ce qui se fait actuellement. Ce sera donc un apprentissage du métier vraiment révolutionnaire et différent, qui liera tous les corps de métier de bouche, qui immergera les étudiants dans des lieux de production, le maraîchage, la pêche, l'élevage, la transformation. On est quand même loin du compte actuellement, même s'il y a plein de bonnes choses qui sont faites dans les écoles qui existent.
Et ça rejoint cette idée, pardon Elvira, que la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes, pour paraphraser Alain Chapelle.
Oui.
C'est pas que de la technique et des ingrédients, c'est aussi tout ce qu'il y a en amont.
Et un bon cuisinier, c'est un cuisinier qui, dès sa formation, a compris ce que c'est qu'une semence aussi. Et cette école comptera une cantine, une boulangerie, une auberge, il y aura un abattoir local, il y aura un lien très fort avec les pêcheurs de l'île des côtes bretonnes. Donc ça, c'est à suivre, mais je trouve ça complètement enthousiasmant. À Marseille, une cuisine vertueuse. Alors ça existe déjà. Ça s'appelle la Casa Consola. C'est encore un projet. Vous connaissez, Carlo? C'est encore un projet slow food. C'est une cantine associative où chacun peut venir participer à la préparation du repas. Lundi, c'est vegan. Mardi, c'est végétarien. Mercredi, c'est viande bio. Jeudi, pâte fraîche maison. Vendredi, poisson local. Avec des prix calculés en fonction du coût des produits utilisés. Prix coûtant, prix moyen, prix de soutien au choix. Ça rend aussi le participant responsable du prix qu'il envisage. Je voulais vous dire aussi un petit mot. Alors là, c'est pas directement slow food, même si ça a été créé par des membres du Convivium Slow Food de Nantes. C'est une boutique qui a été créée à Nantes il y a deux ans.
Ah, là, on n'est pas très loin.
Ouais, on
n'est
pas très loin. Ça s'appelle Au Bocal. C'est une épicerie dédiée au mode de vie zéro déchet.
Qui connaît dans le public Au Bocal? Épicerie.
C'est bien, non?
Vous aimez?
Moi, je connais aussi.
Ah, je vois des grands sourires, des mains qui se lèvent.
C'est bien, non?
Tout le monde dit que c'est super. Il y a même des pouces qui se lèvent.
Donc, le principe, c'est que tous les produits locaux, tant que possible, issus de circuits courts, tant que possible, évidemment, sont vendus en vrac ou sans emballage jetable et sont évidemment issus de l'agriculture biologique. Le principe, on apporte son bocal, on le remplit et on ne paye que le produit. Ça va de la lentille blonde de Saint-Flour jusqu'au dentifrice solide qu'on met dans sa petite boîte en métal. D'ailleurs, le site de la boutique est très, très bien fait. Vous trouvez une recette de houmous de lentilles bio. Absolument formidable.
Ah oui, pas avec du pois chiche, avec de la lentille.
Voilà. Bah oui, c'est pas mal. Hein.
Une autre légumineuse.
Pour finir, est-ce que vous savez ce qui va se passer en Suisse le 23 septembre?
Oh là là, écoutez bien, ouvrez vos oreilles.
Ouais. Arnaud nous en reparlera.
Arnaud est au courant.
Oui, on va en parler.
On va en reparler dans quelques semaines dans l'émission, on va déguster.
Je vous renvoie à la lecture d'un papier excellent sur l'excellent site alimentationgénérale.fr, ça donne de l'espoir. Le 23 septembre, la Suisse va organiser deux votations sur l'alimentation, issues d'initiatives populaires. L'une pour promouvoir des aliments équitables et l'autre pour mettre en œuvre un principe de souveraineté alimentaire. potentiellement, ça peut être deux bombes complètes. La première votation vise à inscrire dans la Constitution que la Confédération renforce l'offre de denrées alimentaires sûres, de bonne qualité et produites dans le respect de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables. Ça devrait évidemment être accompagné d'une législation applicable tant aux produits nationaux qu'aux produits importés, intégrant la réduction de l'impact du transport des denrées alimentaires sur l'environnement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, tiens, on y revient, et la promotion des produits locaux et de saison. Génial déjà. La seconde est une initiative du syndicat paysan Unitaire, Unitaire comme la terre qui nous porte, hein, par...
Oui.
qui vise à inscrire dans la Constitution un principe de, et je cite, « souveraineté alimentaire permettant de favoriser une agriculture paysanne, indigène, rémunératrice et diversifiée, fournissant des denrées alimentaires saines et répondant aux attentes sociales et écologiques de la population ». Il faudra évidemment légiférer pour préserver des surfaces cultivables, développer la vente directe et les circuits courts, etc. Avec l'une ou l'autre de ces votations, et imaginons dans un monde de rêve avec les deux ensemble, bah, la porte pourrait s'ouvrir en Suisse à une exception agricole qui considérait plus les produits d'agriculture comme des marchandises ordinaires.
Carlo Petrini, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui va faire peut-être de la Suisse une exception agricole en donnant la parole aux citoyens à travers une votation?
C'est ça, ce rendez-vous, c'est très important.
Oui.
C'est l'unique pays qui ne fait pas part de l'Union européenne, mais... cette idée de référendum sur cette chose, c'est extraordinaire. Et je pense que le futur, c'est le dialogue. Alors, je suis convaincu que la prochaine édition, la fête de la vache nantaise...
Dans 4 ans, donc. Attention, Laurent Chalet, mission.
Il sera ici des véganes et des végétariens.
Eh oui.
Et alors, nous devons renforcer le dialogue et faire comprendre... que cette manière d'élever, c'est une manière qui va contre la souffrance de la bête, qui va contre la production intensive. Il y a un très beau film en Italie d'un grand maître qui s'appelle Ermanno Olmi, où il y a une chaîne où il y a l'abattoir de cochons, que c'est un moment particulier de la vie paysan. Il arrive le curé du pays et dit « Oh !» Que bel cochon. Et les producteurs ont dit, oui, mais j'ai donné le manger. Il mange mieux que les chrétiennes, cette cochon. Qu'est-ce que veut dire? Que si nous avons un rapport harmonique avec les environnements, la nature, nous avons à respecter les animaux.
Bon.
Si nous avons à continuer comme ça, que les végans sont contre les omnivores et l'omnivore c'est contre les végans, nous allons à faire les intérêts des personnes et des multinationales qui veulent foutre les végans et les omnivores.
C'est vrai, bravo. Même si le dialogue, pour l'instant, c'est quand même un vrai dialogue de sourds.
Oh, ça commence.
Ça commence. Arnaud Daguin est optimiste. Il nous reste une toute petite minute pour évoquer à la fois une recette, quelques produits vertueux que nous a apporté Ludovic Pouzelgue de Lulu Rouget, à commencer par cette recette qui a circulé dans le public. Est-ce qu'on peut avoir une toute petite réaction? Est-ce que vous avez identifié les produits qu'il y avait dans cette assiette? Vous vous appelez comment?
Oui, bonjour, je suis Aurélien.
Aurélien.
Il doit y avoir de l'oignon.
Oui.
Il doit y avoir de la tomate, des multivariétés de tomates.
Oui.
De l'huître, bien évidemment.
Bravo.
C'est le produit phare. Mais une cuisson subtile, je pense que ça doit être, je ne sais pas, de la cuisson par l'acidité, peut-être de la...
Possible, mais écoutez,
je sais pas.
On a le chef avec nous, en tout cas bravo Aurélien, c'est un sacré commentaire de dégustation, vous avez aimé pour faire court.
Ouais, très bien.
Pour résumer, très bien, bah, bravo. La cuisson de cette huître, effectivement, est-ce que c'est le jus acide de la tomate qui joue le rôle d'agent de cuisson?
Non, pas là-dessus, juste pour faire vite, on a parlé de formation et un cuisinier c'est aussi ça, savoir acheter bien, au bon prix. Et savoir mettre le produit en valeur, ça c'est le départ. Et
bien
cette
sûr.
Recette-là, c'est encore une histoire de producteur. Alors, il y a Laurent, mais dans cette recette-là, il y a Olivier, il y a Marie-Claude.
Olivier.
Il y a Olivier Léauté, qui est un producteur copain, qui est à Saint-Hilaire.
Producteur de quoi? N'hésitez pas.
De légumes,
oui.
qui est à Saint-Hilaire-de-Riez. On a également Marie-Claude, qui est Vivier d'Urhuis, qui fait les huîtres. Et on a aussi Jean-Marie.
Huîtres naturelles, hein.
Bien sûr, bien sûr.
Non pas triploïdes.
Oui, bien sûr.
Huîtres élevées en pleine mer.
Exactement, dans son potager de la mer, comme elle l'appelle. Voilà, parce qu'elles sont affinées dans des anciens marais salants.
C'est ça.
Voilà, donc très simplement, elle est ouverte et juste pochée dans son jus.
Oui.
Ce qui va la raidir. Elle est déposée effectivement sur ce qu'a dit monsieur, on appelle ça un patchwork de tomates colorées avec de la green zebra, de la noire de Crimée, de la Roma blanche, etc.
Elles ont vu le soleil celles-là.
Ouais. Et puis le jeu de mots, puisque c'est un plat signature de la maison, on l'appelle huître, tomate, ananas. On a mis un tout petit peu d'ananas. Alors lui il vient pas d'ici, mais il est important parce qu'il amène aussi une touche de fruité. La tomate ananas.
Oui.
Et puis on vient relever de ça d'une nage acidulée. Alors voilà, du vinaigre, du vin blanc sur une base de beurre blanc. Mais il y a beaucoup d'acidité. Et au dernier moment, on met un jus de green zebra centrifugé.
La green zebra, ça... vous évoquez une variété de tomate ancienne.
Exactement. Hein. Et là ça pète en bouche. Et on finit avec des petites fleurs de fenouil.
Oui.
Qui viennent du croisic, donc chez Jean-Marie.
Pour la touche anisée.
Exactement.
Aurélien n'avait pas cette touche anisée. Si, il l'avait, il a aimé. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette recette. On retrouve évidemment votre recette ainsi que celle de la batuta de vache nantaise sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et on cite juste, parce que malheureusement on peut pas rentrer dans les détails, mais deux produits que vous nous avez apportés, de deux producteurs qu'on salue évidemment, il y a un vin et du beurre.
Alors le beurre, c'est de chez Cédric Briand.
Bien sûr.
Le local de l'étape. Un beurre exceptionnel,
voilà. Extraordinaire.
Jaune, top. Et puis un vin coup de cœur. De chez mon ami Jérôme Brotodo, qui est pour moi le futur du muscadet avec d'autres. Un vin en biodynamie, sans intrants, sans rien, cultivé à la main, enfin tout ce qu'on veut, les décoctions, etc. sur des vieilles vignes, un terroir de gabbro, donc du caillou. Et cette magnifique cuvée qui s'appelle Gaïa et qui est vinifiée dans des cuves ovoïdes.
Oui, vous avez aimé Arnaud Daguin.
Exceptionnel, oh là là. Et la preuve en est qu'on le boit volontiers même quand il n'est pas frais.
Oui.
Et c'est vraiment la preuve que c'est très très bon.
Un vin vivant et vibrant signé Jérôme Bretodeau qui incarne avec quelques autres.
Hein,
il y a évidemment Joe Landron et quelques
bien
autres.
Sûr.
Ce renouveau formidable, il se passe de belles choses dans le Muscadet.
On les aime, on les adore.
Et on est juste à côté, merci beaucoup Ludovic Pouzelgue, Lulu Rouget à Nantes pour une cuisine percutante et vertueuse. Vous êtes souvent complet. Et ça ne m'étonne pas vu le talent.
Mais il y a de la place.
Le talent que vous avez, mais il y a quand même de la place. Nos auditeurs viendront vous voir, j'en suis sûr. Carlo Petrini, longue vie à Slow Food. Merci à Olivier Ferroux et Stéphane Martin de France Bleu Loire Océan. Merci à tous ceux qui sont à l'origine de ce formidable événement. On repartira à Paris avec du baume au cœur, une vraie bouffée d'oxygène, ça fait plaisir. Bon, allez, on va citer Laurent Chalet, évidemment, le fondateur, qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Fabrice Gendre, Cédric Briand, qu'on a évoqué, éleveur de vaches pinoires, auteur d'un beurre formidable. Xavier Hamon, président de l'Alliance des cuisiniers Slow Food en France, qui est le premier à m'avoir parlé à l'oreille avec vous, Laurent Chalet, de ce bel événement. Et on continuera, au fil des éditions, à le soutenir. La fête de la vache nantaise, c'est jusqu'à ce soir. Venez nombreux d'ailleurs cet après-midi pour une conférence de l'Union des apiculteurs de Loire Atlantique, une intervention de la documentariste Marie-Monique Robin et de Michel Bras à l'Université Paysanne. Il y a des ateliers de cuisine et il y a beaucoup de monde pour faire la fête la semaine prochaine. Carlo Petrini, écoutez bien, nous retournons dans nos studios parisiens pour une émission consacrée à la cucina calabrese avec Alessandra Pierini, notre experte italienne de la bande. Vive la fête de la vache nantaise, merci à tous.
Merci.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.